tous, je suis Louise, designer chez La Grande Ourse. Merci de nous rejoindre pour cet épisode d'Un Poil du X. Aujourd'hui, nous accueillons Carole Lémé, facilitatrice et formatrice aux méthodes collaboratives ludiques qui a pu collaborer avec de multiples sociétés dans différents secteurs. Le sujet de cet épisode est « Comment faciliter les ateliers par le jeu ? Comment résoudre des problèmes complexes par des ateliers ludiques ?» Bonjour Carole, merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté de partager ton expérience en facilitation d'ateliers avec nous.
Bonjour Louise, merci de m'accueillir sur ce podcast.
Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la facilitation d'atelier ?
Oui, avec plaisir. Alors du coup, ma définition que je vais donner, ce n'est pas une définition académique, mais en tout cas c'est la définition que j'en donnerai. Pour moi, c'est faciliter les échanges en fait, au sein d'un groupe avec une posture qui est neutre et bienveillante. Du coup, on va en reparler, mais c'est vraiment faire travailler les gens ensemble, arriver à, voilà, à les faire collaborer ensemble de manière plus facile. Dans la facilitation, il y a facile, donc c'est rendre les choses faciles aussi. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent co-construire des choses en fait pendant l'atelier. Elles vont être actives. Contrairement à des réunions, en général, on est passif en réunion. C'est-à-dire qu'on a un ordre du jour et en fait, on est plutôt là pour discuter, échanger. Parfois, on prend des actions, on note des choses. Mais en fait, quand on fait un atelier, les gens vont vraiment être dans l'action. On va leur demander de produire des choses. Par exemple, remplir un document, un canva, un template, quelque chose qui a déjà été préparé en amont en fait, par la personne qui va faciliter l'atelier pour qu'ensuite, on ait un livrable en fait, en fin de session. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Livrable, il y a plein de possibilités. En tout cas, vraiment, les gens vont être vraiment actifs. C'est plus ça que je vois comme différence entre une réunion classique et un atelier. Et du coup, ça se fait vraiment dans plein de contextes différents. On peut vraiment, quand on est designer, on peut faire ça, par exemple, lors d'un atelier de cadrage avec un client. On peut faire ça pour une phase de conception, par exemple, s'il faut prototyper quelque chose. On peut faire ça aussi pour trouver de nouvelles idées quand on est en phase d'idéation, qu'on cherche un peu à trouver des solutions par rapport à notre problématique. Donc, ça se fait vraiment dans plein de contextes différents. Et ça peut être fait autant avec les équipes en interne, si on est dans une entreprise, ou avec aussi bah, des clients, avec des utilisateurs. On peut imaginer plein de formats différents. Voilà ce que je peux te dire sur la facilitation de manière globale, si je fais un petit résumé.
Super, merci beaucoup. C'était très clair. Et du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est échanger autour des ateliers menés de manière ludique, donc par le jeu. Est-ce qu'on peut faire ce type d'atelier même pour des sujets sérieux ?
Alors oui, surtout quand sur des sujets sérieux en fait. c'est vraiment, enfin moi c'est ce que je conseille parce que du coup les sujets sérieux, des fois il y a un peu des tensions, il y a des choses qui sont non dites ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le fait de travailler par le jeu, ça lève un peu ces freins là en fait. Ça libère la parole, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Je vais te prendre un exemple. Moi il y a une méthode sur laquelle j'ai été formée en 2018, c'est la méthode Lego Serious Play. Et en fait, c'est une méthode voilà où on travaille avec des Lego. Donc il y a tout un tas d'exercices qui sont prédéfinis, donc c'est une méthode qui est vraiment très bien décrite ou enfin vraiment comment dire avec des exercices défini qu'on doit appliquer tel quel, etc. Donc c'est toute une méthode qui a été vraiment réfléchie par des chercheurs, etc. Et par exemple dans les règles qui sont données par cette méthode, il y a une règle qui est par exemple que quand on construit une figure avec des Lego, donc chaque personne va devoir construire une figure, par exemple sur est-ce que vous pourriez représenter avec des Lego comment est-ce que vous voyez par exemple votre entreprise, tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. Donc chacun va construire sa figure et chacun est responsable de sa figure, c'est-à-dire qu'en fait personne d'autre n'a le droit de toucher toi ta figure. Et du coup ça c'est intéressant parce que du coup contrairement à quand on fait un atelier par exemple juste avec des post-it, mm-hmm. où du coup bah, les gens ils prennent les post-it, ils les mélangent et puis à la fin ton post-it il est noyé dans le truc et tu le vois plus et t'as plus ta place en quelque sorte. Et bien là, c'est intéressant parce que du coup, tu as ta place. Tu as toujours ta petite construction qui est là, qui est visible sur la table. Il n'y a que toi qui peux la toucher. Il n'y a que toi qui peux la déplacer. Personne ne peut la démolir. Personne ne peut la mélanger avec les autres. C'est vraiment ta construction. Donc, par exemple, pour les personnes qui sont très timides, qui n'osent pas, ben en fait, là, elles sont visibles. Donc, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et ça, je trouve ça intéressant comme règle du jeu. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que du coup, quand on a des règles du jeu, ben, en fait, les gens suivent les règles du jeu. Et à chaque fois, comme c'est ludique, ben on rappelle de manière sympa, ben, attention, t'as pas le droit de toucher la figure de telle autre personne, etc. Et ça permet justement voilà, d'avoir des techniques comme ça qui vont au-delà de juste un atelier classique avec des post-it. On peut vraiment imaginer des règles qui viennent ben, appuyer sur des points qui nous paraissent importants. Et ça permet, enfin, aussi, je trouve, ça permet vraiment d'aller plus en profondeur dans les discussions. C'est-à-dire, par exemple, quand on utilise des méthodes de photolangage, avec, bah ça se fait aussi dans des ateliers classiques, mais quand je dis le jeu, c'est vrai que je n'ai pas défini jeu, mais c'est plutôt activité ludique. Ce n'est pas forcément toujours des jeux, tu vois. Des jeux, mais du moins, c'est plutôt ludique, on va dire. C'est plutôt ça. C'est des choses qui viennent alléger un peu le discours. De par ce côté ludique et en même temps qui viennent creuser en profondeur. Donc je disais en fait la profondeur c'est par exemple tu vas utiliser des cartes peut-être que tu connais le jeu Dixit ce qui est assez connu. Il y en a plein d'autres hein, des jeux de photolangage mais ça enfin ça à la base c'est un jeu de société classique qu'on a enfin que les facilitateurs ont détourné. Donc c'est un jeu où on a des images qui sont dessinées dessus et en fait on peut demander par exemple aux personnes de choisir une des cartes. Donc il y a 80 cartes. Une des cartes qui représente le mieux, par exemple, leur humeur du jour, par exemple, ou bien qui représente le mieux comment ils se sentent sur le projet. Donc, au lieu d'avoir un truc un peu bateau, ah oui, bah, ça va bien sur le projet, ou voilà, on creuse pas et c'est pas très intéressant. Là, en fait, avec la carte, c'est très intéressant parce que du coup, déjà, les gens sont moins à nu parce qu'en fait, ils sont derrière une carte, ils sont là, ils ont la carte devant eux, ils parlent de la carte. Donc, de manière indirecte, en fait, c'est quelque chose qui est un objet un peu médiateur, quoi. Donc, en fait, ils vont parler de la carte, ils sont moins visibles et voilà, mis à nu. Et en fait, là, ils vont plutôt décrire ce qu'ils voient sur la carte. Ah, ben là, je vois une abeille, donc je suis en train de butiner des informations. Enfin, voilà, ils vont essayer de chercher des choses comme ça avec des métaphores qui vont vraiment aller plus en profondeur que juste oui, ça va. Et voilà. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant avec le jeu. C'est que du coup, on peut atteindre ce genre de niveau, en fait.
Ok, super intéressant. Du coup, là, je me pose une question de faire ces activités ludiques. Donc, il y a Lego, les cartes. Ça permet aussi aux participants d'aller plus, comme tu disais, en profondeur sur ce qu'ils ressentent et la position dans laquelle ils sont. Et du coup, ça leur débloque des choses. Les gens sortent des informations, des émotions qu'ils ont qu'ils n'auraient pas sorties normalement.
Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée. Et enfin, des exemples comme ça, il y en a plein. Enfin, et le fait que ce soit ludique, ça amène de la légèreté dans le sens, bah, on est là pour jouer. Enfin, il y a moins le côté aussi, on est au boulot, on est là pour, des fois, certains dans certaines entreprises, hein, pour s'ennuyer, pour faire du dur labeur, etc. Donc là, c'est. Enfin, moi, ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est que les gens, en fait, à la fin de l'atelier, c'est moi je trouve ça génial. Ils ont joué pendant tout l'atelier, enfin ils ont l'impression en tout cas d'avoir joué pendant tout l'atelier, ils ont produit des choses pour le travail et à la fin ils se disent ah mais c'est déjà fini mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'effort quoi. Ça s'est fait de manière fluide et en fait là pour moi c'est vraiment de la réussite en fait de se dire ben, en fait les gens ils se sont amusés et en même temps ils ont des choses très utiles pour la suite du projet quoi.
C'est trop chouette. Et du coup, est-ce que aussi les choses qui en ressortent, c'est des choses plus, je dis, entre guillemets, pures, dans le sens où comme il n'y a pas les barrières habituelles du travail, que c'est pas aussi strict, que tu retombes dans des jeux que tu pouvais faire, enfin, tu as une démarche comme des jeux que tu pouvais faire en primaire, ce genre de choses, est-ce que ça donne des résultats qui sont parfois totalement différents de ce qui aurait pu ressortir d'une réunion, par exemple?
C'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que les gens sont plus créatifs, effectivement, parce que justement, la créativité, c'est quelque chose souvent qu'on laisse un peu de côté quand, bah, quand on arrive dans le monde du travail, même quand on commence les études, etc. On est moins dans cette espèce d'insouciance et de se dire, bon, en fait, je peux dire n'importe quoi, je peux donner les idées les plus folles et partir en cacahuète, en quelque sorte, le temps de. Et en fait, c'est des fois, c'est les idées folles, en fait, qui sont hyper intéressantes. Et quand on voit les innovations, par exemple l'électricité, c'est un truc improbable quand même comme truc pour l'époque. C'est de dire, ben, en fait, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, il devait passer pour un fou, quoi. Et donc, ça, c'est ça, en fait. C'est se dire, ben, en fait, là, je peux me permettre. Je suis dans un cadre où je peux. J'ai le droit, en fait, de. Alors que. Enfin, souvent, on dit, on est dans le oui et pas dans le oui mais. Quand on est dans cette phase, hein, de création. Et après, il y a d'autres phases, mais quand on est vraiment dans cette phase de création et d'idéation, c'est vraiment, ouais, on peut se permettre en fait. On n'est pas jugé en fait. On n'est pas jugé parce qu'on est là pour ça. On est là pour sortir un peu ça. Il y a un peu, voilà, ce côté un peu fou qui peut plus ressortir, je trouve, avec le jeu.
Ok, merci. Du coup, ce type d'approche, est-ce qu'il marche avec tout le monde, par exemple les stakeholders, utilisateurs, designers, ou est-ce qu'il y a des adaptations à prévoir?
Alors, en fait, je trouve que c'est pas forcément lié à un type de profil, en quelque sorte, même si parfois on peut se dire que les personnes qui ont des responsabilités, elles sont peut-être un peu moins, enfin, elles sont peut-être plus dans ce rôle de il faut faire sérieux, etc. Mais c'est peut-être un peu cliché parce que moi j'ai vu des personnes dans ces rôles-là qui s'amusaient comme des enfants, voilà, et c'est enfin. Et des fois, et des personnes qui avaient d'autres rôles où je pensais qu'en fait, ils allaient s'amuser. Et en fait, il y avait ce petit blocage, des fois, parfois au début. Ça ne m'est pas arrivé très souvent, au final, d'avoir ces blocages. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que comme c'est sur un groupe, j'ai jamais eu un groupe entier qui m'a dit non, mais là, on ne va pas faire ça, ça ne va pas à la tête, on ne va pas faire ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, ça m'est arrivé, par exemple, qu'une personne ou deux, ouais, je sens qu'il y a cette petite réticence. Et comme le reste du groupe le fait, ben en fait, voilà, comme il y a le biais de conformisme, de faire un peu la même chose que les autres, etc., et de pas, voilà, de pas se faire rejeter, et puis de, voilà, ben en fait, les personnes suivent le truc, et au final, voient après les résultats. Mais en fait, c'est pareil, je pense que il faut bien doser. C'est-à-dire que quand on va faire son brief, qu'on va essayer de voir en fait à qui on s'adresse, avec qui on le fait, etc., il ne faut pas effectivement faire des jeux trop poussés et trop foufous quand les gens ne sont pas habitués. Donc c'est ça aussi, c'est que du coup, il faut bien doser. C'est-à-dire que ça peut être des activités ludiques très simples, un photolangage, comme je parlais tout à l'heure, avec un Dixit. Et même le Dixit, parfois, ça peut être perçu comme quelque chose d'assez perché en quelque sorte. Moi, par exemple, quand je ne sais pas trop où je vais, j'utilise des cartes plus simples. Par exemple, j'ai un jeu de cartes qui s'appelle Pictit, et en fait, ce sont des pictos dessus. Donc, il y a un pictogramme de voiture, il y a un pictogramme de chien, un pictogramme d'arbre, et ça peut être une manière de se présenter. Je leur dis, bah là, c'est pareil, il y a 80 cartes, vous choisissez une carte qui raconte une anecdote sur vous. Donc là, c'est simple, hein, c'est de dire, ah bah tiens, j'ai pris la planète Terre parce que j'aime bien voyager, voilà. C'est hyper sobre. Mais en tout cas, ça permet de parler d'autre chose que de se présenter et dire, alors moi, je suis responsable marketing, gnagnagna. Du coup, ça permet de dire autre chose. Mais du coup, voilà, j'utilise pas les mêmes jeux en fonction de la population que j'ai et de ce que je sais de ces personnes, de savoir si elles sont plus ou moins à l'aise avec ce type de méthode.
Et du coup, pour si il y avait des gens très réfractaires, dans ces cas-là, tu fais comment pour les ramener un peu dans le jeu et qu'ils participent quand même?
Ben, en fait, j'ai même pas eu besoin parce que, en fait, ils ont suivi le groupe. J'ai donné les règles et j'ai vu, en fait, à leur comportement. Peut-être un peu des bras croisés ou genre une petite ronchon. Mais en fait, j'ai même pas eu besoin. En fait, ils se sont prêtés au jeu et enfin, ils m'ont pas dit ouvertement, bah non, je veux pas jouer. Enfin, ça m'est jamais arrivé encore d'avoir ce genre de choses. Mais parce que, aussi, j'adapte aussi, voilà, au public, mais aussi un truc que je n'ai pas dit, c'est aussi à la temporalité. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer, si jamais j'ai un atelier, je ne vais pas commencer dans le dur avec un jeu hyper, hyper, hyper perché ou quoi. Je vais commencer par des petits jeux au début. Et puis si je vois que ça prend bien, ben, au fur et à mesure, j'avance. Et en fait, il y a toujours une part d'impro aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'adapte aussi parfois, enfin, que ce soit avec des jeux ou pas que des jeux, hein, même dans les ateliers, j'adapte souvent en fait en fonction des réactions des gens. Je me dis, bah, tiens, là, je peux aller un cran plus loin. Là, non, il faut que je recule d'un cran parce que là, ça va trop loin pour eux. Je réadapte le temps. Je me dis, tiens, là, on n'a pas passé assez de temps sur ce truc-là parce que je sens que c'est hyper important pour eux. Finalement, c'est pas grave, on va passer plus de temps. Et puis, cette activité que j'avais prévue plus tard, bah, c'est pas grave, on la fait pas. On va la faire autrement. Donc, il y a toujours cette part d'impro. C'est pour ça que c'est très, très important d'être vraiment à l'écoute du groupe et d'être bien, bien au fait de ce qui se passe dans le groupe et d'être vraiment à fond dedans, quoi.
D'être vraiment observateur de la cible qu'on est en train de, avec qui on est en train de communiquer.
Oui.
Et du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais une méthode pour mettre en place un atelier, justement?
Alors, une méthode, pas forcément, en tout cas, ce que je peux donner un petit peu, moi, comment je fais et quelques conseils. Déjà, la première chose, c'est le brief, en fait. C'est, enfin, le brief, ça dépend si c'est nous qui sommes demandeurs ou pas, enfin, si on est dans une entreprise et que c'est nous qui poussons l'atelier, ou si, par exemple, on est freelance et que, on a une demande client. Mais en tout cas, c'est toujours ce début, en fait, qu'on soit en interne ou pas, ce début, en fait, qui est très important de savoir pourquoi, en fait, on fait cet atelier. C'est pas juste, on va faire, ouais, trop bien, on va faire l'atelier. Oui, mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, l'atelier? Donc, c'est quoi le but? C'est quoi l'intention qu'on a derrière cet atelier? Est-ce que c'est de produire un prototype, voilà, enfin, un prototype? Est-ce que c'est prioriser une liste de fonctionnalités? Est-ce que c'est travailler sur, voilà, sur des idées de, voilà, des idées de comment des nouvelles idées en fait pour les solutions qu'on doit mettre en œuvre. Enfin, voilà, il y a plein de choses et c'est ça qu'il faut qu'on identifie. C'est en fait c'est le point de départ dans lequel on est. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui. Où est-ce qu'on veut aller demain avec cet atelier, grosso modo? Et en fait après bah, nous ça va être notre taf, ça va être de construire le déroulé et le cheminement qu'il va y avoir entre les deux, entre l'état actuel et l'état futur souhaité en fait. Et pour ça, on va mettre en œuvre tout un tas, pardon, d'exercices, voilà, de jeux, de choses, d'activités ludiques, dans mon cas. Mais enfin, ça marche exactement pareil quand on fait un atelier classique, hein. C'est exactement le même principe. Et donc pour ça, moi, ce que je conseille, c'est de préparer à fond, de vraiment très très bien préparer, même si, comme j'ai dit juste avant, il y a toujours une part d'impro. Mais plus on est préparé, et plus on est serein le jour J, en fait. Et si on n'a pas l'habitude de faire des ateliers, que c'est un peu les premières fois qu'on les fait et tout, en fait, on peut très bien prévoir des plans B. Se dire, bah, tiens, je vais prévoir ça, et puis si je vois que là, je ne suis pas trop, je me prévois un autre exercice sous le coude. Mais quand on est habitué à faire ça, on a plein d'exercices en tête. Donc, en fait, on arrive à changer dernière minute. Ah non, cet exercice-là, je ne vais pas le faire comme ça, je vais plutôt prendre tel autre, mais parce qu'on les connaît. Mais si on ne les connaît pas, bah, c'est bien d'en prévoir quelques-uns sous le coude au cas où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Donc, vraiment, la préparation, c'est hyper important. Il y a un outil qui existe. Je pense que enfin, moi, j'avais fait un Canva de ce truc-là, mais enfin, il n'est plus en ligne actuellement. Mais enfin, vous pouvez le trouver, je pense, sur Internet, j'imagine, que vous devez en avoir. C'est quelque chose qui s'appelle les 7 P. Et en fait, c'est des points de repère qui permettent de bien préparer et de penser à tout. Donc, dans P, il y a la pertinence de l'atelier, les participants et les participantes. Le produit, donc c'est-à-dire le livrable en fait qu'on va devoir réaliser, le processus, donc en fait c'est tout le déroulé avec bah, tous les exercices qui vont s'enchaîner avec les horaires et tout ça, la préparation, le côté pratique, pratique c'est plutôt bah, qu'est-ce que j'emmène comme matériel, etc. Et puis les pièges. Donc avec ça, normalement on a balayé toutes les choses à voir pour bien préparer son atelier. Et puis je le disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment bah, quand on est dans l'animation. Donc une fois qu'on a tout bien préparé, on est le jour J, on est dans l'animation. C'est être, bah, encore une fois, c'est être souple, en fait. C'est s'adapter parce qu'on travaille avec de l'humain et l'humain, on ne peut pas le prévoir. Et en fait, on ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer. Enfin, c'est impossible, en fait. On
Mm.
ne peut pas savoir la réaction des gens. Enfin, même des fois, des gens, moi, enfin, une personne là, dont je parlais tout à l'heure qui était un peu réfractaire, ça faisait plusieurs ateliers que je faisais avec cette personne. Et en fait, ça se passait très bien. Toutes les activités ludiques, elle les a faites, elle était à fond. Et en fait, c'est quand j'ai sorti les Legos qu'elle a fait la tête. Et je ne m'attendais pas à ça, parce que je me suis dit, bah, je suis sûre que ça va lui plaire et tout. Et en fait, des fois, bah, voilà, on a des surprises. Donc, peut-être que bah, elle n'était pas à l'aise quand elle était enfant à faire des Legos, je ne sais pas. Voilà. Voilà, on a toujours des surprises. Donc, faut savoir s'adapter et puis changer si jamais ça ne va pas. Voilà, pour changer. Et d'ailleurs, en fait, ce qui peut être fait, enfin moi, ce que j'aime bien faire aussi quand je ne connais pas bien le groupe et que j'arrive sur un projet, c'est quand on fait des icebreakers, au début, c'est de commencer par un icebreaker un peu d'intention ou de météo, un peu de voir comment les gens sont, en fait. Donc, essayer de voir un peu quel est leur ressenti, comment ils se sentent, etc. Ce qui permet un peu de sonder le public et de voir un petit peu si on marche sur des œufs ou si on est plutôt tranquille. Ça peut être une bonne chose. Donc ça, c'est pendant l'animation, donc vraiment tout ce qui est souplesse. Et après, bah, une fois qu'on a fait l'animation, il y a toute la partie bah, analyse, compte-rendu. Donc moi, je prends beaucoup de photos pendant la séance. Comme ça, bah, en fait, j'ai mes livrables, en fait, c'est ce qu'ils font pendant l'atelier. Donc des photos de ce qu'ils ont rempli, des post-it qu'ils ont mis, par exemple si c'est des figures Lego, bah des Lego qu'ils ont construits. Donc tout ça, je le prends en photo et après, ça me permet de le mettre dans un compte-rendu pour garder des traces et de ne pas oublier ce qu'on s'est dit pendant la séance. Donc là, c'est pareil, si vous pouvez aussi prendre des notes de ce qui est dit pendant la séance pour ne pas oublier, pour pouvoir faire votre compte-rendu. Et puis après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi sur... on parle beaucoup des icebreakers. Et ça, c'est hyper important. J'en parlais tout à l'heure de sonder, etc. Donc ça veut dire que j'ai une intention derrière mon icebreaker, j'ai un but. Et ça aussi, c'est là où on peut tomber dans le piège, en fait. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes, ils font des jeux ou des icebreakers, des choses comme ça, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas tout ça derrière. Et en fait, c'est là où ça peut capoter. C'est là où, en fait, c'est le piège. C'est que, en fait, vous faites ça, et c'est là où ça paraît ridicule de faire un jeu. Vous faites un jeu, il n'y a pas de débrief, il n'y a pas d'intention, il n'y a rien. C'est juste pour dire, oh, je vais faire ça, ça va détendre l'atmosphère. Mais en fait, là, en fait, ça ne marche pas. Et là, les gens vont se dire, mais pourquoi on a fait ça, en fait, je ne comprends pas. Et c'est là où ça ne va pas fonctionner de leur côté. Ils vont se dire, non, mais c'est nul, en fait, de faire des jeux. Et c'est pareil pour les ateliers. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez des clients et de me rendre compte qu'en fait, il y avait déjà des ateliers qui avaient été faits, qui n'avaient pas fonctionné. Parce que du coup, pas de suite, pas de but. Pas... Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et du coup, les gens étaient complètement démotivés et disaient, bah, encore des ateliers, mais ça ne sert à rien, quoi. Enfin, ils pensaient que ça ne servait à rien. Mmh. Donc du coup, là, c'est compliqué. Et c'est pour ça que derrière chaque chose qu'on fait, il faut un déroulé logique et une intention et savoir vraiment pourquoi on fait les choses. Donc les icebreakers, c'est pareil. Dès que je fais un icebreaker, je me demande, en fait, bah, pourquoi je le fais? Pourquoi je le mets à tel endroit? Voilà, et il faut toujours que ça desserve un but. Donc si, par exemple, c'est des personnes qui se retrouvent en atelier, qui ne se connectent pas bien, bah, je vais peut-être faire un icebreaker pour leur permettre de se connaître un peu mieux. Voilà, ou prendre la météo si je vois que c'est un peu tendu. Ou voilà, essayer de voir un petit peu à quoi ça va me servir. Ou par exemple, aussi, il y a une autre chose, c'est on dit icebreaker, mais ce n'est pas toujours en début d'atelier, ça peut être en plein milieu d'atelier. Par exemple, on va commencer une séance de créativité, paf, je fais un petit icebreaker qui permet de lancer la créativité. Donc ça peut être mis à plusieurs endroits. Et pareil, en fait, il y a aussi toute la partie débrief et clôture qui est hyper importante. Donc, en fait, déjà, la clôture, ça va se faire à la fin de l'atelier. Donc, voilà, rappeler ce qu'on a fait, la suite qui va se passer bah, une fois qu'on sera parti de l'atelier, comment est-ce qu'on met les choses en place, etc. par la suite. Mais il y a aussi, quand on fait les jeux, c'est bien de débriefer sur les jeux. Enfin, c'est hyper important, en fait. C'est même là qu'est la valeur ajoutée. C'est que du coup, si par exemple, on fait un jeu sur la communication, par exemple, pour démontrer que la communication, c'est très important dans l'entreprise. Donc ça, c'est un jeu sérieux qui permet, en fait, de démontrer que c'est important. C'est le débrief, en fait, qui va être intéressant. Donc, vous allez faire le jeu. Et puis ensuite, c'est quand on va débriefer. Et c'est aux personnes de débriefer. C'est vous qui allez les questionner. Donc, vous allez avoir des questions et dire, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez perçu les choses? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quelle transposition on peut faire de ce truc-là dans votre cadre de travail? Et c'est ça qui a de la valeur, en fait. Parce que le jeu, c'est sympa, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on va en faire derrière. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je suis en train de relire mes notes. Donc voilà, ça dépend de l'objectif, participant, de l'ambiance. Enfin voilà, moi, si j'avais déjà trois conseils juste sur cette partie-là, c'est vraiment bah, avoir un brief en béton. Donc vraiment, la préparation à fond, bien préparée. Se permettre d'improviser. Au contraire, c'est vraiment utile parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est aussi ce format, la gestion de groupe. Tout ce qui est dynamique de groupe, enfin, essayer de comprendre. Parce qu'en fait, si déjà on n'a plus à penser à ça et qu'on se concentre rien sur le contenu, c'est déjà beaucoup plus facile. Moi, du coup, j'ai fait des études de psychologie. Donc, pendant mes études de psychologie, j'avais tout un tas d'outils qui me permettaient en fait, de comprendre les groupes, les dynamiques. Et puis aussi l'écoute active, l'observation, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai pu affûter pendant mes études. Et puis j'ai refait une formation après, plus tard, quand j'étais salariée, parce qu'en fait je faisais pas mal de focus group, enfin d'études utilisateurs, etc. quand j'étais salariée au début. Et je me rappelle d'un focus group en particulier qui m'avait vraiment secouée parce qu'en fait ça s'était pas très bien passé. J'avais pas su gérer, en fait, je savais pas vraiment comment gérer parce que ce qu'on m'avait pas trop appris, c'était vraiment gérer les personnes en individuel au sein du groupe. Je voyais la dynamique de groupe, je voyais comment ça se passait, mais par exemple, là, ce que j'avais, c'était un leader négatif, donc une personne qui était là, en fait, pour pour faire en sorte voilà, que l'atelier aille à mon encontre, etc. Enfin, voilà, essayer de couler un peu le projet. Et en fait, du coup, c'est une personne qui a rallié, en fait, les autres personnes du focus group à sa cause, en fait. Et du coup, bah, ton truc était biaisé dans le sens où il y avait une personne qui a changé la vie de tout le monde, et que du coup, je ne savais pas réellement ce que pensaient réellement les gens, en fait. Et du coup, ça m'a vraiment posé souci. Et je me suis dit, bah, faut vraiment que je me reforme parce que c'est, enfin, ça, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait une formation. C'était une formation, je sais plus, de 2 ou 3 jours. Et ça m'a vraiment servi. Et du coup, ça me sert encore toujours. Et après, avec la pratique, en fait, au final, on pense plus à gérer le groupe parce qu'à force, on a l'habitude, on sait comment on doit gérer telle ou telle personnalité, etc. Et c'est beaucoup plus facile. Donc, déjà, se former à ça ou au moins s'entraîner, c'est bien aussi d'aller sur le terrain. C'est vrai que souvent, les personnes qui n'ont jamais animé d'atelier ont un peu peur au début, et n'osent pas se lancer. Mais en fait, il faut se lancer sur des terrains, faciles au début pour déjà, acquérir la méthodo, essayer de voir et puis commencer à gérer. Donc, des terrains faciles, par exemple, bah, entre midi et deux, on fait un petit atelier de brainstorming entre collègues. Voilà, ça, c'est pas très engageant et en même temps, ça permet de s'entraîner. De gérer voilà, tout un tas de choses parce qu'on doit penser à plein, plein, plein de choses quand on fait l'atelier. On doit gérer l'humain, on doit gérer le timing, on doit gérer le déroulé, on doit improviser, on doit gérer le matériel, on doit gérer prendre les notes. Enfin, il y a que beaucoup de choses. Pareil aussi, si vous n'êtes pas trop à l'aise, faire un binôme avec une personne plus expérimentée, c'est super aussi.
Est-ce qu'il y a quelques conseils ou quelques points clés à savoir pour bien gérer le groupe?
Des conseils pour gérer le groupe, bah là en fait, bah c'est déjà avoir conscience que qu'il va y avoir des rapports entre les personnes, que enfin qu'en fait les personnes vont interagir les unes avec les autres. Donc en fait déjà ce que vous avez c'est et des fois on arrive à l'estomper un peu plus avec le jeu, mais c'est tout ce qui est rapport de hiérarchie. Donc déjà savoir qui est hiérarchique par rapport à l'autre, etc. C'est bien de l'avoir en tête. Pour justement, essayer, en fait, ça va dépendre de votre objectif, mais essayer de les mettre sur un pied d'égalité, mais en même temps, les personnes qui décident, bah, si c'est ces personnes-là qui ont le dernier mot, bah, faut que ce soit elles aussi qui, voilà, qui à un moment donné, statuent sur un état ou un autre de l'avancée du projet. Donc voilà, c'est déjà identifier ces personnes-là, déjà de comment elles sont dans l'entreprise, et ensuite identifier bah, les personnes, enfin leur état d'esprit là. Parce qu'on parle de personnalité, on parle de tout ça, mais en fait, une personne peut être leader négatif dans un atelier et être leader positif dans un autre atelier. Donc il faut pas étiqueter les gens comme ça, c'est juste là un instant T, une personne qui va être plus ou moins comme ça par rapport au sujet, par rapport à comment elle se sent. Et des fois, c'est simplement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le sujet, voilà, ou ça fait déjà 3 ateliers qu'ils bossent dessus et que ça avance pas. Enfin, on ne sait pas, en fait. C'est bien qu'avoir l'historique, c'est pas mal. Donc, ce qui peut être intéressant, enfin, ce qui est intéressant aussi à faire, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis le brief, il est hyper important, c'est de parler aussi avec ces personnes-là en amont. Si vous ne connaissez pas bien le contexte, etc., et que vous avez un peu peur, qu'on va se dire c'est un peu tendu, etc., bah, c'est faire des entretiens individuels en amont pour essayer de voir comment elles se sentent sur le projet, qu'est-ce qu'elles envisagent, qu'est-ce qu'elles souhaitent qu'on aborde pendant l'atelier, enfin essayer de voir tout ça, ce qui permet déjà de bah, d'être préparé pour le jour J, quoi.
Comment les participants y réagissent sur ce type d'atelier en termes de crédibilité, surtout quand on gère un atelier par le jeu? Est-ce que il y a des freins, pardon, des craintes qui te sont souvent rapportées?
Oui, en fait, alors après ça dépend parce que moi, comme du coup je suis identifiée comme une personne qui fait des ateliers comme ça, bah, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir parce que justement je travaille comme ça. Mais ça m'arrive encore, bah, surtout dans les personnes que je forme, d'avoir ce type de questions, de dire mais moi dans mon entreprise je pense que ça va pas être bien pris, en même temps j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que il y a cette peur un peu de se dire que c'est infantilisant, qu'on n'est pas au travail et qu'on est là enfin voilà, qu'on nous prend pour des enfants, etc. C'est une peur qu'il y a. Mais pour moi, c'est pas forcément une peur parce que des fois, des personnes qui sont hyper sérieuses, après on les voit, elles se lâchent, mais totalement. En fait, on est hyper surpris. On se dit, mais en fait, cette personne qui a des grosses responsabilités, elle est à fond, elle se lâche trop. Et en fait, c'est assez drôle en fait de voir ça, de voir que justement par le jeu on peut transformer. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que du coup, dans le contexte pro, ce qui est très important, c'est la phase de débrief. Et c'est aussi par la démonstration. Il faut commencer petit aussi. Pas commencer par faire un jeu hyper compliqué. Commencer par des petites cartes faciles à prendre en main et puis voir comment ça prend. Et puis les gens disent « Ah, c'est marrant !» Et en fait, c'est dans le débrief aussi, c'est de se dire bah, « Voilà, on s'est présenté avec ces cartes, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'est passé ?» Et là, les gens vont dire « Ah, mais c'est super, je ne pensais pas qu'on dirait ces choses-là, c'est chouette. Ah ok, bah, la prochaine fois, on ira un cran plus loin. » Et c'est vraiment, voilà, il y a les petits à petits, quand on a peur de marcher sur des œufs, etc. Voilà. Débriefer, expliquer, c'est pas juste pour faire joli, il faut toujours que ça ait un but, ça c'est hyper important, on l'a déjà dit, hein. Le jeu, ça a des règles en fait, donc ça permet d'avoir un cadre. En fait, on a l'impression qu'on va faire n'importe quoi, que ça va partir dans tous les sens, mais non, en fait, il y a des règles du jeu, il y a toujours des règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est la même, enfin, au travail, il y a des règles aussi, enfin, c'est pareil en fait, c'est des règles du jeu, sauf que bah, il y a ce côté ludique qui est là. Mais ça, voilà, ça rassure, ça explique le but, ça cadre. Donc on voit où on va. Et en fait, moi je trouve que il y a rien de mieux d'expérimenter, parce qu'en fait c'est là où des fois, quand on a des gens qui sont un peu sceptiques, c'est quand on fait en fait qu'ils sont convaincus. On fait, on débrief, et après ils disent, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Et du coup là, c'est intéressant. Et en fait, c'est là qu'ils sont convaincus. C'est un peu comme. Il y a 10 ou 15 ans qu'on essayait de convaincre à faire de la recherche utilisateur, si on fait le parallèle. C'est un peu ça, c'est « Oh non, mais les utilisateurs, on les connaît, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller faire des interviews, on sait déjà ce qu'ils veulent, nanana. » Bah ça, on l'entend quand même de moins en moins, parce que du coup, on l'a fait. On a forcé un peu, on a fait, on a dit « Bah si, on va le faire, on va faire des entretiens, on va faire des tests utilisateurs, on va faire tout ça, puis vous allez voir. » Et moi, le nombre de fois où j'ai fait ça, où les gens, après, quand ils ont vu le résultat du test utilisateur, ils se disent « Waouh, c'est génial, on aurait dû faire ça avant. » Bon, bah là, c'est un peu pareil.
Est-ce que tu as des exemples de réussite ou l'atelier par le jeu qui ont permis de débloquer des problématiques complexes?
Oui, alors déjà, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est ce que je trouve super, c'est que ça permet vraiment de débloquer la parole. Donc des personnes qui sont plus timides ou quoi, comme elles ont cet objet médiateur un peu, enfin qui vient voilà, aider à la parole. Ça c'est super parce que c'est on aborde des sujets qu'on n'aurait pas abordé en fait si on n'avait pas fait ça à travers le jeu, parce que ça fait tomber les masques un peu. Et puis après, une fois j'ai eu un atelier qui était assez complexe, je savais pas trop comment le mener. C'était un atelier pour imaginer voilà un projet futur, etc. Et en fait j'avais cherché pas mal de choses sur internet, des exercices, des choses, et j'avais cherché dans mes livres, j'ai beaucoup de livres avec plein d'exercices, plein de choses, et puis je trouvais pas trop, et puis d'un coup je suis tombée sur un jeu qui s'appelle Parc. Alors j'ai plus en tête exactement ce que veut dire quoi, mais grosso modo je crois que P c'est la position actuelle du projet, A c'est les actions, R c'est C c'est les contraintes, et R je sais plus exactement ce que c'est, mais grosso modo j'avais réussi à faire tout mon atelier avec ce jeu. C'est un jeu de cartes où, du coup, en fait, dessus, on arrivait à se dire, bah, c'est quoi les contraintes du projet? C'est quoi, de quoi on part? Vers où on va? C'est quoi les actions qu'on met en place? Et sur les cartes, il y avait vraiment des éléments qui ont vraiment permis de questionner en profondeur le projet. Savoir comment ils se positionnaient sur le projet, quels étaient un peu les... Ça faisait ressortir un peu des notions aussi de valeur. Enfin, et du coup, j'ai fait tout mon atelier avec ça. Et ça a hyper bien marché. Franchement, c'était vraiment chouette. Donc ça, c'est un jeu vraiment professionnel. Vous avez aussi des jeux professionnels qui existent. C'était hyper intéressant. Et ben là, très récemment, aussi, j'ai animé un atelier où en fait, je pressentais, mais j'avais pas eu l'information de manière directe, qu'il y avait une tension en fait, entre deux personnes qui étaient présentes à l'atelier, deux personnes de deux structures différentes. Et du coup, quand j'ai co-animé cet atelier, quand on a préparé, bien sûr, on avait prévu des petites activités ludiques, voilà, comme d'habitude. Et en fait, ça a allégé l'atmosphère. Et en fait, j'ai vu vraiment ces deux personnes vraiment discuter ensemble et avoir des discussions hyper profondes, parce que du coup, ça avait été structuré, travaillé et dans un contexte bienveillant et voilà, dans un contexte plus léger. Et en fait, quand on a terminé l'atelier, il y a une des deux personnes qui est venue nous voir et qui nous a dit oh ben c'est bien en fait qu'on ait fait ça. Franchement, merci, parce que c'était vraiment tendu. Et donc là, il nous a expliqué vraiment les tensions qu'il y avait en fait entre eux, chose qu'on n'avait pas avant. Et il nous a dit que c'était vraiment important pour lui d'avoir fait cet atelier, que ça avait vraiment permis de débloquer justement ces tensions de par l'atelier qu'on avait mené. Donc là, je me dis c'est quand même une réussite parce que ces personnes-là vont devoir collaborer par la suite. Donc le fait d'avoir détendu un peu, ça permet justement de repartir sur des bases plus saines pour la suite, quoi.
Du coup, c'est vraiment une démarche qui a en fait un impact qui est même au-delà d'un projet. Ça a aussi un impact sur les relations des personnes qui participent et qui collaborent ensemble.
Oui, c'est ça. En fait, quand on parle de facilitation, souvent on imagine que c'est que pendant l'atelier. Mais en fait, c'est le avant, le pendant, le après. Et surtout le après. C'est-à-dire qu'en fait, là où ça ne marche pas, les ateliers, c'est quand on s'arrête au pendant et qu'on n'imagine pas le après. Il faut toujours imaginer de se dire qu'en fait, notre atelier il va desservir quelque chose de pour après. Donc, c'est vrai que plus on a d'informations, donc là, pendant le brief, moi, je n'avais pas eu l'information de cette tension. Je l'ai senti, mais c'était qu'un pressenti. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que c'est. Mais les personnes ne le disent pas toujours, en fait. C'est compliqué. Il y a des choses qu'on peut pas arriver à leur faire dire lors d'un brief, notamment ce genre de choses. Et oui, il faut toujours qu'il y ait un après. C'est pour ça que souvent, quand on termine un atelier, il y a souvent un plan d'action ou un proto qui va servir pour plus tard. Enfin, le livrable, en fait, va servir pour plus tard. Et il y a aussi, ce qu'on ne parle pas, c'est la facilitation qui est quand on est sur des missions plus longues. Moi, ça, je fais plutôt des missions courtes, donc je fais un peu moins ça. Mais quand on fait des missions longues, c'est aussi faciliter au quotidien, quoi. C'est mettre en place des outils dans les entreprises pour voilà, continuer à collaborer si c'est des problématiques de collaboration, etc. Donc, c'est faciliter les choses tout au long du process, quoi, du projet.
C'est du coup des process qui sont mis en place au-delà du projet, c'est-à-dire que c'est des rituels un peu à avoir pour améliorer la communication entre les collaborateurs.
On peut, ça peut faire partie de la mission. C'est, quand on dit facilitation, on imagine souvent facilitation d'atelier, mais ça peut aussi être de la facilitation sur du long terme, sur du long cours, sur des projets plus longs, où effectivement on peut mettre en place, comme tu dis, des outils qui permettent de desservir le but énoncé sur la mission, quoi.
Et quels conseils principaux tu pourrais donner à des designers qui nous écoutent concernant la facilitation de leurs ateliers?
Ah, ben là, je vais me répéter. Préparer. Il faut préparer, préparer, préparer. Bien préparer. Donc ça, vous avez plein de ressources qui existent. Il y a plein de choses. Il faut vraiment aller voir dans des sites, dans des livres, vraiment se renseigner. Et d'ailleurs, ce qu'on pourra faire, c'est de mettre dans les liens qui sont postés avec le podcast, le lien vers ma base Notion. Qui répertorie en fait pas mal de choses. Donc, il y a des livres de référence, il y a des sites de référence sur lesquels vous allez pouvoir trouver des outils qui vont permettre de trouver des outils pour vos ateliers, des canvas, des choses comme ça, des templates à remplir. Il y a d'ailleurs ceux de la Grande Ourse qui sont dispo. Et puis également, 70 jeux de cartes que j'ai répertoriés. Il y en a beaucoup plus et je remplis souvent la base de données, mais j'ai pas tout rempli parce que j'en ai encore plus dans ma tête. Mais au moins ça vous donne une base. Et du coup c'était d'ailleurs une base celle avec les jeux qui avait été co-construite avec d'autres personnes. Donc j'avais demandé un peu aux personnes sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez partager vos jeux, etc. Donc il y a plein de jeux. Donc ça vous donne déjà une idée. Et en plus, il y a des jeux gratuits et des jeux payants. Donc, vous pouvez aussi trouver des jeux gratuits qu'on peut télécharger et imprimer soi-même, etc. Et donc, voilà. Donc, déjà, ça va vous permettre déjà de bien préparer vos ateliers et d'avoir déjà des choses qui vont pouvoir vous servir si c'est vos premiers ateliers ou même si ce n'est pas vos premiers ateliers que vous voulez enrichir vos connaissances. Voilà, ça peut servir. Tout ça pour dire que ça va vous permettre de bien préparer. Donc, moi, quand je prépare, tous mes ateliers sont sur mesure, en fait, parce qu'ils sont tous différents. Je ne peux pas faire deux fois le même atelier. Des fois, il y a peut-être des choses qui vont se ressembler d'un atelier à l'autre. Mais ça ne sera jamais pareil. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une bonne phase de recherche. Moi, je suis toujours le nez dans mes livres, le nez dans mes sites, dans mes trucs, dans mes références, dans mes jeux. Et je suis toujours en train de réinventer la roue, certes, mais en même temps, c'est toujours, ça colle vraiment parfaitement aux besoins du client, au contexte, aux personnes, à tout ça. Parce que c'est tellement différent d'un projet à l'autre qu'en fait, c'est pas possible de faire toutes deux fois le même truc. Donc, c'est pour ça que la préparation, elle est hyper importante. Et puis ensuite, bah, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on travaille avec de l'humain. Donc, ça, avoir des bonnes connaissances des biais cognitifs. D'ailleurs, la Grande Ourse, c'est un super jeu de cartes là-dessus. Donc, les biais cognitifs. Enfin, voilà, essayer d'être vraiment formé sur ce côté gérer l'humain, c'est hyper important. Ça va vous alléger déjà la charge mentale. Et puis, aussi, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, alors que c'est quelque chose d'hyper important. C'est que la personne qui facilite, elle a une posture neutre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour donner notre avis. On est en retrait. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre en lumière les autres. C'est pas à nous, on n'est pas sur le devant de la scène, même si on est là pour faciliter, on est un peu, en quelque sorte, on est la personne chef d'orchestre, en fait. On est là pour faire en sorte que les personnes collaborent. Mais à aucun moment on va donner notre avis ou prendre une décision, dire bah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça que ça, c'est aussi un piège dans lequel on peut tomber et que je sais qu'il y a des personnes qui le font et moi je trouve pas ça forcément adapté, c'est d'être facilitateur et en même temps participant. Et ça pour moi c'est un piège parce que faire les deux, c'est bon, déjà c'est une gymnastique voilà, qui est compliquée. Et puis ensuite, enfin, ça donne quel crédit en fait à ça? Est-ce que du coup, si on est participant, on n'a pas envie que le groupe aille dans notre sens?
Ça
Ça,
peut
c'est un
fausser les
piège.
résultats de l'atelier.
Bah ouais, parce que du coup, l'idée, c'est de rester neutre pour faire en sorte que le jus de cerveau qu'on va faire sortir de la part des personnes, ce soit leur jus de cerveau et leurs propres actions, leurs propres idées. Et c'est ça qui est génial en fait dans ce métier. C'est d'arriver à faire en sorte que tout ce qui va sortir de cet atelier, ça va servir, ça va leur servir. Et en fait, nous, on est juste là pour poser le cadre, faire fonctionner les choses, faire avancer les choses. Et les gens se laissent porter, en fait. Ils n'ont pas à penser à ça. Ils se laissent porter. Eux, ils ont juste à produire la matière. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut très bien faire ce travail-là sur des choses qu'on ne connaît absolument pas. Moi, plein de fois, enfin, les ateliers que je fais, c'est aussi sur des sujets que je ne maîtrise absolument pas. Mais parce que c'est pas ce qu'on me demande, en fait. Je ne suis pas experte du sujet sur lequel je travaille. Je suis simplement experte de la façon dont on va travailler dessus. Et du coup, les personnes, elles sont expertes. Et c'est elles qui vont produire les choses. C'est elles qui vont faire ça.
Super, bah merci pour tous ces conseils que tu viens de nous donner, Carole. Merci pour ton temps et le partage de tes connaissances. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast Un poil du X de la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant des biais cognitifs sur notre site lagrandeours.design, dans la section blog et bien évidemment les cartes des biais cognitifs sur notre boutique en ligne.